Bonjour Julie Gagné. Alors Julie, tu es allée voir deux expositions pour nous, deux installations pour nous. Qu'est-ce que tu es allée voir?
Bien, je suis allée à Méduse. Donc j'ai circlé dans l'édifice même de Méduse. Je suis allée à la bande vidéo pour voir Johan Grimond-Pré et Charlotte Léouzon qui nous présentent « Le ciel est peut-être vert et nous, daltoniens ». C'est une YouTube-o-tech. Le mot est quand même assez bien choisi. Je suis aussi allée voir...
C'est de Bart Simpson, ça. C'est une citation de Bart Simpson.
Ah oui? Ah, oui. Je n'étais pas au courant. Je pense que ça fait trop longtemps que je n'ai pas regardé Simpson. Il n'y avait pas de YouTube encore dans le temps. Ensuite, je suis allée voir en grande, je suis allée voir l'exposition de Salvatore Arancio. Mais okay. Je vais commencer quand même par la YouTube-o-tech, parce que qu'est-ce que c'est ça, une YouTube-o-tech? Finalement, c'est comme une discothèque. C'est comme une sélection de vidéos qui viennent de la télévision Internet, qui viennent des images de téléphones cellulaires, de blogs, de YouTube, de gens qui se mettent en vedette. C'est vraiment une compilation qui mélange autant la réalité que la fiction pour nous présenter un peu l'histoire contemporaine sous plusieurs perspectives. On dit aussi que ça ouvre la voie à la manipulation du spectateur. Je suis quand même assez d'accord avec ça. C'est un peu comme un zapping d'images. On est vraiment dans une société où on zappe, surtout notre génération, peut-être Anne-Marie et moi, on a été habitués de faire ça, coller sa télé pendant notre adolescence, à zapper puis à regarder quelque chose en même temps. Des images, des vidéos plus ou moins relatives à la politique américaine ou au monde actuel qui est vraiment passé sous le sceau de l'ironie et de la critique. Donc, toutes sortes de vidéos, il y en a beaucoup qui viennent de YouTube, notamment « George Bush is stupid ». Là, il y en a 25 en vidéo. Là, je ne parlerai pas des 25, je vais parler quand même de quelques-uns qui étaient un peu plus...
Mais il y a deux écrans. Il y a deux télés.
Il y a deux télés, mais en fait, c'est les mêmes vidéos qui sont présentées. C'est juste qu'il y en a un qui donne le son ambiant, tout ça, et l'autre avec des écouteurs qui sont pas au même endroit. Mm-hmm. Donc, moi, je suis allée avec les écouteurs. J'étais vraiment dans ma bulle et avec Internet. Donc, le premier vidéo, « George Bush is stupid », ce sont des extraits de discours de George Bush qui dit rien, mais qui a l'air de dire quelque chose, qui sont mis en parallèle avec une analyse politique de quelqu'un qui dit à quel point... Dans le fond, les gens aiment George Bush parce que il dit rien, puis ça ressemble à ce que eux diraient dans les circonstances finalement. George Bush is stupid, il est près du peuple, les gens se reconnaissent en lui, donc en ça, il peut être populaire. Un autre vidéo, Jesus Christ Musical. Déjà, ça c'est fort, c'est I Will Survive, sur l'air de I Will Survive. Et là, c'est un gars qui personnifie Jésus, qui se promène en ville et qui fait une chorégraphie de comédie musicale sur I Will Survive et qui meurt happé par un autobus. C'est vraiment ironique, c'est vraiment trash. Il y a Echolalia qui est vraiment très fort, c'est une vidéo de Robert Arnold. Echolalia, en fait, c'est un problème psychiatrique, une tendance spontanée de répéter systématiquement une phrase en guise de réponse. Et au bout du compte aussi, c'est bon, comme une autre définition qui dit qu'Echolalia, c'est qu'à force de toujours répéter la même chose, ça perd son sens. Et qu'est-ce qui est répété tout au long de cette vidéo-là? C'est encore une critique de George Bush et de son administration. C'est « Weapons of Mass Destruction ». Qui est répété comme ça. Et là, on voit tous les hauts dirigeants de l'administration Bush, les gens des médias, Fox, CNN, etc., qui répètent et qui répètent. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça demande vraiment la mise en place du mécanisme de création de la peur. Mm-hmm. Comment, en répétant toujours, en assonnant toujours les mêmes phrases, ça devient subliminal.
C'est un peu l'envers de Superflex avec qui dit qu'il n'y a pas de crise économique.
Oui, probablement, dans un certain sens. En fait, je ne l'ai pas vu, Superflex, donc j'essaie d'avoir l'air de l'avoir vu.
Superflex, c'est l'hypnotiseur qui est là. Qui,
avec l'installation de pièces de monnaie au sol, avec des arts visuels.
Okay. Et qui dit, qui conditionne les gens au fait que la crise économique, ça n'existe pas.
Oui, effectivement. Dans une certaine mesure, c'est que là, on crée la peur, finalement. Je termine avec peut-être juste deux petites descriptions de vidéos. Il y en a une, c'est Guns Safe, Amnesty International. Mm-hmm. Et là, c'est une infopub de AK-47. Mm. Ça fait mal. Et pour la démonstration, il demande à un enfant de l'utiliser pour montrer à quel point c'est facile. Mais il y a aussi des vidéos.
Les enfants guerriers, ça existe aussi.
Ben oui, ça existe aussi, effectivement. Mais de faire une infopub là-dessus, je veux dire, c'est d'une ironie, d'un cynisme. C'est vraiment... C'est dur, vraiment, de voir ça, parce qu'il y a toute la voix en jeu, tous les mécanismes aussi des infopubs. Et parallèlement, il y a aussi des vidéos vraiment stupides, comme on en trouve sur Internet, dont les gens se régalent, ils filment leur animal domestique en train de faire une connerie. Dans ce cas-là, c'est « The Stupidest Dog Alive » et c'est un chien qui gronde après sa patte et qui se bat. avec sa patte. Donc, c'est vraiment un gros mélange qui utilise les référents de la culture populaire, de l'histoire contemporaine, oui, pour nous montrer la manipulation de la pensée, mais aussi pour nous faire porter notre regard sur la société actuelle, qui est une culture de gens qui se mettent en scène, une culture du divertissement aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, du zapping, de tous les possibles, où tout le monde peut exprimer son opinion, hein, qu'elle soit pertinente ou non. Tout le monde peut se mettre en vedette puis avoir sa petite heure de gloire. C'est une culture de la désinformation, de l'excès, des gens qui, au lieu de se raconter des histoires drôles, vont maintenant, tu sais, passer par le filtre d'Internet pour se parler ou pour se dire des choses. Donc, une communication qui est peut-être un peu déviée, qui a un intermédiaire. Et ça nous montre aussi, moi, je trouve, les infinies possibilités d'Internet, ses dérives, ses abus, ses critiques. Donc, c'est parfois drôle, c'est parfois critique, c'est parfois dur, mais ça reste quand même une mosaïque assez représentative de l'éclatement, peut-être, de la société actuelle.
Et ce qui est assez particulier, l'artiste Grimont-Pré avait toute une série d'indications sur l'installation comme telle. Il devait y avoir du café, il devait y avoir
des biscuits. Ben oui, j'ai vu ça.
Il devait y avoir en fait, ce qu'il voulait recréer, c'est comme une salle de repos où les gens prennent le temps de regarder ça. Même, il y a même une espèce d'ampoule 60 watts qui est suspendue. Tout ça était prévu, organisé. C'est comme ça qu'il voyait son installation. Donc, il y a même les
magazines, en fait, là, de la salle d'attente, des magazines sur comment utiliser des armes de destruction massive ou tout ça, puis des manuels aussi sur comment monter une arme. Je ne me rappelle pas exactement, là, mais effectivement, ça ajoute à l'ambiance. Ça fait un peu kitsch en même temps que ça fait sordide.
Donc, ça, c'est à la bande vidéo jusqu'au 13 juin.
Oui.
Et après ça, tu es allé faire un tour chez Engram.
Ben oui, vous m'en avez parlé avec beaucoup d'éloquence, toi et Anne-Marie, en disant « Va voir ça, c'est extraordinaire, c'est vraiment bon. » Salvatore Arancio, l'exposition n'a pas vraiment de nom, je crois.
Il n'y a pas de titre.
Oui, c'est ça. C'est une exposition sans titre. C'est un artiste italien qui s'est inspiré d'images du 19e siècle qui illustrent des études géologiques de paysages volcaniques. Donc déjà, on est dans l'imagerie du 19e siècle. C'est un monde assez particulier. En plus, sur le carton d'invitation, il reprend vraiment un lettrage très hors nouveau là, pour nous situer dans le contexte, donner une impression de vieillot. Et il va modifier ces images-là numériquement, ça va modifier le sens et la signification. Et d'œuvres scientifiques, finalement, vont devenir des œuvres artistiques qui nous font réfléchir ou qui nous font tomber dans la contemplation aussi. Donc, de paysages naturels, on passe à des paysages construits qui sont réfléchis et sur lesquels l'humain est intervenu, finalement. Des paysages oniriques aussi, quand même, hein, parce que c'est assez particulier. On est dans un monde où on a peut-être un peu de merveilleux, de désolation à la fois, surtout dans les cinq gravures qu'il y a sur le mur gauche en entrant. Des images aussi, moi, elles sont tellement belles. Les images sont très claires, très nettes, précises, un détail et d'une finesse qui sont vraiment impressionnants. Et ça, moi, je trouve que c'est propre à, susciter l'émotion de voir ça, conjugué aussi avec le caractère improbable. En même temps, je trouve que ça me rappelle les estampes japonaises. Ça me rappelle Okusai, par exemple, avec ses vues du volcan
Il y a toujours un aspect fictif dans le paysage, en fait. Une espèce d'appropriation du paysage par l'homme, puis une fictionalisation du paysage. Puis c'est vraiment ça qu'on retrouve aussi dans son travail. Mais je ne sais pas si tu as eu le temps de creuser, mais je pense qu'il y avait aussi l'aspect technique de son travail qui est vraiment particulier, c'est-à-dire qu'il part de photogravures. Hein. Il part de photogravures du 19e siècle qu'il va numériser et travailler numériquement. Ouais. Et après, il va pas seulement imprimer ça, il va refaire des photogravures à la main.
Techniquement, c'est un peu fou de faire ça. Donc, c'est comme ça rajoute à la précision puis à la folie de la chose. Parce que les photogravures qui étaient utilisées à la fin du 19e siècle, c'est pour, mettons, publier dans les livres ou les journaux. Il n'y avait pas d'offset encore. Ouais. Ça s'en venait. Mais... Donc, lui, il a pris ces photogravures, il les a scannées, il les a retravaillées numériquement. Il aurait pu les imprimer, donc, tel quel, avec une presse 6 couleurs. Bon, ça aurait été formidable. Non, il les a retransférées sur des plaques métallique
là,
pour faire la photogravure. C'est un ouvrage de fou.
Ben moi, je trouve qu'il y a toute l'idée aussi de reproduire ce qu'on voit, dans le fond, à travers la première gravure. Donc, on reproduit le paysage et là, lui, reproduit peut-être le paysage qui est construit, que lui-même a construit. Je trouve ça
comme
vraiment intéressant.
Comme il fait en vidéo, d'ailleurs, tu vois.
Effectivement, comme il fait en vidéo. Et tout ça présente vraiment, bon, tu sais, je l'ai dit en début de chronique, le jeu sur la réalité Et la fiction, ça crée aussi des endroits qui sont vraiment comme d'une froideur, qui sont un peu inaccessibles, mais qui donnent l'impression d'être des trésors cachés. Et je pense aussi, parce qu'il parle beaucoup du 19e siècle, et je pense qu'il s'intéresse à la notion du sublime. Oui, donc, l'émotion qu'on ressent devant le paysage qui devient plus grand, en fait, que ce qu'on voit, qui crée comme une sorte de mélancolie, tout ça. Donc, on voit vraiment qu'il est dans des idéaux du 19e siècle, qui s'intéresse au mélange aussi entre l'art et la science, la frontière entre les deux, par le biais peut-être de la nature. Un autre élément que j'ai beaucoup aimé de l'exposition, ce sont ces collages. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que là, il a carrément pris des pages de magazines ou de livres qui traitent de géologie, qui a conjugué à des éléments du vocabulaire moderniste de Kandinsky, de Mondrian. Donc, on associe la nature, l'homme, on associe le chaos et l'ordre, on associe comme une évolution lente avec le construit, l'abstraction avec la figuration aussi, la chaleur, la fougue, avec comme la froideur, la géométrie. J'ai vraiment trouvé que c'était vraiment bien. Puis en plus, comme les lignes qu'il intègre au collage donnent l'impression de souligner des forces dans les compositions des images, comme si la photo servait pas juste à montrer, mais servait à exprimer aussi en même temps. Je sais pas si vous avez vu ça en observant l'exposition.
Moi, en fait, il y a une autre chose qui m'a vraiment frappée, puis c'est le rapport à l'exotisme, c'est-à-dire que ces photogravures du 19e siècle ont une espèce de rapport à un exotisme d'un pays lointain qu'on apprend à découvrir avec les traversées géographiques, les découvertes géographiques des gens qui se sont promenés au 19e siècle pour coloniser le monde, en fait. Donc, il y a ce rapport-là avec l'image qui est vraiment particulier. On invente ce paysage-là, on découvre quelque chose, on ne le comprend pas nécessairement très bien. Puis, sa façon de les reproduire, de réorganiser le paysage, fait que nous-mêmes, on a une forme d'exotisme par rapport à ces images-là, qui sont des images très actuelles, puisqu'elles ont été faites par Salvatore Arancio. Donc, c'est comme s'il venait doublement
nous
rendre cet exotisme-là à partir du 19e siècle, donc de façon temporelle et géographiquement aussi, parce qu'il les retravaille maintenant. Donc, c'est vraiment une dimension spatio-temporelle super intéressante.
Et lui, il disait que ces images scientifiques, au départ, n'étaient pas si scientifiques que ça, d'ailleurs. Donc, ils ont eu un succès mitigé quand ils ont été imprimés au 19e siècle, un peu comme... vous avez tous vu des livres produits par les premiers explorateurs français qui imprimaient en France des Indiens habillés d'une façon qu'aucun Indien, comme des Romains. Mais tout le monde les croyait à ces images-là. Ben, mais c'est un peu la même chose pour le monsieur dont il s'est inspiré.
Effectivement, comme la notion d'imaginaire a toujours été présente, même à l'époque. Mais c'est clair aussi que la notion de science, je crois, au 19e siècle n'était pas non plus aussi peut-être poussée qu'aujourd'hui. On l'a vu. Donc, c'est comme ça. Les gens sont peut-être plus naïfs, mais c'est vrai, il y a moins de moyens de communication. Et peut-être en terminant, je voulais parler juste des trois vidéos d'animation. Moi, je trouve ça vraiment beau. Ça me fait penser à l'esthétique de Méliès. Je ne sais pas pourquoi. À l'esthétique de Méliès ou encore des films d'animation, des Monty Python aussi. Comment il s'appelle, le réalisateur? Terry Gilliam, qui avait vraiment... Il reprenait justement des vieilles images d'archives comme ça, qui animaient. Ça me faisait penser à ça, justement, le mouvement aussi, parce qu'il reprend exactement les mêmes images de volcans, finalement, du 19e siècle, qui met en mouvement. C'est vraiment beau. En même temps, c'est poétique. Il ajoute une petite dimension de couleur. Et là, on se situe vraiment dans un univers complètement autre. On n'a même plus l'impression que c'est la Terre. C'est joli.
Ben, je pense que tu as aimé ça, Julie.
Oui, oui.
On dirait.
Nous sommes tous des fanatiques.